Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
La vie éternelle n'est pas ce que l'on croit. Quelques vérités joyeuses sur le ciel. Bonjour Père Benjamin Boisson, prêtre de la communauté des Béatitudes, auteur de ce dernier livre. Alors est-ce qu'on parle au fond de l'Apocalypse dans ce livre, puisque vous abordez l'eschatologie, vous abordez la fin des temps, les fins dernières, vous parlez aussi, et c'est une vraie catéchèse, de l'enfer, du purgatoire et du ciel.
Alors, il y a aussi une erreur assez répandue, même chez les catholiques, c'est il y aurait un temps, si vous voulez, à la fin du monde, où les gens pourraient se convertir. Hein. Cette idée, elle vient de très loin, ce qu'on appelle le millénarisme, même de l'écriture, oui. C'est 1000 ans qu'il est dans le livre de l'Apocalypse. Et en fait, il n'y a pas. C'est la fin du monde et la fin des temps en même temps. Sinon, ce serait trop facile. Si on avait encore 1000 ans pour se convertir, tout le monde se convertirait. Donc, il n'y a pas cette vision-là. Alors, il y a aussi une autre erreur qui est plus répandue dans certains mouvements chrétiens, c'est qu'il y aura un paradis terrestre. Par exemple, les témoins de Jéhovah, mais aussi beaucoup d'autres.
Vous en parlez, c'est très clair dans votre livre.
Hein. Témoins de Jéhovah, il y a aussi les Mormons. Voilà. Donc, beaucoup de chrétiens ont une lecture un petit peu rapide de la parole de Dieu. Mais il n'y aura pas de paradis terrestre, ce sera un paradis céleste, un paradis spirituel, un paradis en présence de Dieu. Comment être en présence de Dieu si on ne devient pas comme Dieu, hein ? C'est-à-dire si on n'est pas dans un autre monde, voilà, dans un monde spirituel, un monde qui sera avec nos corps, mais nos corps glorifiés, donc c'est tout un autre monde. Alors ça veut dire que finalement, il faut se dépêcher, se préparer, il faut tous les jours se préparer à notre propre mort et à la fin du monde. Parce qu'en fait, on ne sait pas quand la fin du monde aura lieu.
Personne ne sait. Dans la
demain,
Bible, les Écritures, rien n'est inscrit, Père Benjamin.
Ah ben Jésus dit même, nul ne sait ni le jour ni l'heure, c'est seul le Père le sait. Je ne sais pas, dit Jésus. Donc c'est le mystère par excellence. On ne sait pas que ça va arriver. Ça va arriver cette nuit, dans 15 jours, dans un an, dans 10 ans. En 2000 ans, peu importe, mais il faut toujours se tenir prêt.
Est-ce que nous aurons quelques signes de ce retour, peut-être, de cette fin du monde, Père Benjamin ?
Alors, traditionnellement, on dit qu'il y a 6 signes qui nous préparent un petit peu à ce moment final. Il y a 3 positifs, je vais m'arrêter sur les 3 positifs, ça serait trop long. Le premier, ce sera l'unité des chrétiens. Voilà, on n'y est pas encore tout à fait. La deuxième, c'est l'évangélisation des peuples, c'est-à-dire tout le monde aura connu le Christ Jésus, on n'y est pas encore tout à fait. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle l'illumination d'Israël, c'est-à-dire le fait qu'Israël reconnaisse Jésus comme sauveur, tout en restant Israël, mais qu'il reconnaît que le Christ est le Messie. Voilà.
Donc on n'y est pas encore.
On n'y est pas non plus encore. Mais il y a des signes qui vont dans ce sens. Voilà, il ne faut pas regarder que des choses négatives, il faut aussi regarder des choses qui avancent dans ce sens. Voilà. Et donc, on ne sait pas trop, c'est toujours un mystère, mais il y a quand même des signes qui nous préparent. Voilà. Et quand tout cela arrivera, il y a aussi les chrétiens qui vont renier leur foi, la venue de l'Antichrist.
Pensez à une grande apostasie de l'Église ?
L'apostasie de l'Église, voilà. La venue de l'Antichrist et l'abomination de la désolation. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Parce que même...
Donc là aussi, ça reste un peu mystérieux.
Voilà. Oui. Donc, on est dans des signes que beaucoup regardent, essayent de trouver...
Aujourd'hui, dans ces temps aussi, on parle aussi un peu de ces fins dernières, avec quelques signes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, prêtre de l'Église catholique?
Alors, le monde passe, hein, mais la croix demeure. C'est-à-dire que des périodes, quand on fait un peu l'histoire de l'Église, on aperçoit que des périodes comme celles qu'on vit actuellement ont déjà été vécues, dépassées, voilà, et qu'on n'est pas dans une, on n'est pas, on ne vient pas de rien. On a déjà une histoire derrière nous, une histoire de l'Église, une histoire du monde, et on s'aperçoit que des épreuves très très dures, telles qu'on les vit aujourd'hui, ont déjà existé. Voilà. Et en fait, par exemple, à l'an 1000, on pensait que le monde allait s'arrêter. Donc les gens s'enterraient dans leur maison, ne sortaient plus. Il y a eu quelques mois, quelques années comme ça, où plus rien ne se passait, parce que les gens pensaient que ça allait être la fin du monde. Voilà. Puis on revoit aujourd'hui avec un certain nombre de personnes qui se construisent des abris, qui achètent beaucoup de trucs pour se réconforter, qui ont peur. Mais ce n'est pas une peur qu'il faut avoir, hein, c'est une joie. Voilà. Une joie parce que le Seigneur vient.
Alors comment transformer cette peur en joie, Père Benjamin ? Ça semble tellement simple pour vous, prêtre. Vous avez donné votre vie au Christ et à l'Église, et finalement vous avez donné votre vie pour le monde et pour les âmes.
Eh bien, d'abord, la vie est plus forte que la mort. La résurrection est plus forte que la croix. Donc, il y aura toujours quelque chose après, si vous voulez, un moment de mort, de croix, il y a toujours la vie. Voilà. Et l'espérance chrétienne, elle se base sur la résurrection du Christ. Donc, on espère de tout son cœur, qu'après, ça sera mille fois mieux. Hein. Comme dit saint Augustin, Dieu permet un mal pour en tirer un plus grand bien. Donc quand on vit des choses difficiles comme aujourd'hui, on peut se redire cette phrase de saint Augustin, Dieu permet la situation actuelle pour en tirer un plus grand bien. Encore faut-il que les hommes participent à ce plus grand bien. Voilà. Beaucoup de penseurs se disent, mais est-ce qu'on va recommencer comme avant, ou est-ce que c'est vraiment une nouvelle naissance, d'un nouveau monde plus proche des gens, plus proche de la simplicité,
plus authentique et plus vrai dans les relations,
voilà, ouais. Plus simple et moins mondialisé, voilà, par exemple. Voilà, bon, c'est une question
moins matérialiste,
ouais. Exactement. Voilà, ce sont des questions que on doit porter à cœur et on doit prier pour que il y a quelque chose qui change, voilà, parce que après le mal, un plus grand bien.
Alors ça c'est donc... Et vous venez de citer saint Augustin, vous le citez énormément dans cet ouvrage. Hein. Quelle est votre relation avec ce grand saint?
Ah, saint Augustin, c'est...
Deux mots.
C'est mon saint préféré d'abord parce que c'est un saint qui est extrêmement cité par beaucoup, qui a laissé des traces dans beaucoup de philosophies, de théologie, de mouvements. Voilà, je cite abondamment parce que je l'aime bien, voilà.
Vous citez aussi saint Alphonse de Ligouri.
Ah bon, hein?
Oui, mais en particulier, page 183 de votre ouvrage, vous évoquez aussi ces noces de l'agneau. À la fin des temps, tout va se récapituler et s'accomplir dans un festin festif et glorieux. Cette idée d'un grand festin, meilleur encore que celui de Babette, est présente déjà dans le livre d'Isaïe. Donc, il est bon, au fond, de relire au fond la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament. Il y a les croix, il y a les traversées, il y a les déserts, il y a dans cette finalité la croix du Christ et sa résurrection. Alors que nous dit ces noces de l'agneau?
Alors les noces de l'agneau, on le retrouve en effet dans Isaïe, on le retrouve dans l'Apocalypse, et puis on le retrouve dans l'Évangile aussi quand Jésus parle des noces. Et donc, les noces à nous, c'est les noces du fils de l'homme, de Jésus, qui invite tous les hommes à cette grande table de joie, de paix, de lumière, de danse. Voilà. Et donc, après la mort, après l'épreuve de la fin du monde, il y a ces noces éternelles, ces noces entre nos âmes et puis le Christ. Voilà. On peut le voir comme une noce spirituelle qui est beaucoup plus forte qu'une noce... de ce monde.
Alors, il y aura beaucoup d'élus, il y en aura 144 000. Combien d'élus pour ce festin et ces noces, hein, Père Benjamin Boisson?
Première épître à Timothée, Dieu veut que tout homme soit sauvé. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il y aura tout le monde, sauf ceux qui le refusent. Sauf ceux qui ne veulent pas le mettre, le vêtement de noces, comme l'explique la parabole.
Donc, il y a cette condition quand même chez l'homme de son libre arbitre et de sa liberté.
Absolument. Et on met en œuvre sa liberté tous les jours. Et en fait, notre liberté, on la façonne jour après jour pour, au moment où y était, dire oui et non pas non. Donc, dire un grand oui, alléluia.
Est-ce, que c'est, la bonne période pour peut-être se remettre en route, se décider au fond pour la vie? Est-ce que c'est des clés pour vivre, des clés pour en vue du royaume? Faut-il le désirer, Père Benjamin? C'est ça toute la question. Vous pouvez peut-être interroger les auditeurs qui vont certainement aussi se procurer très vite ce livre. Quelle serait la bonne question pour peut-être se remettre en route, hein, si on est dans une période un petit peu de tiédeur, où on n'a plus une lassitude, un ronronnement, on n'est plus vraiment dans une prière, que cette prière est une prière quotidienne, mais qui n'est plus vraiment habitée. Comment peut-être remettre un peu d'ordre dans ce chemin spirituel?
Quel est notre désir, voilà. Quel est le pourcentage entre 0 et 100 de notre désir de Dieu? Saint Augustin, encore une fois, dit que lorsque la prière s'arrête, notre désir continue. C'est-à-dire que désirer Dieu, c'est un désir qui se renouvelle en effet par la prière, mais aussi par notre volonté, par notre liberté, par nos actes. Si on fait un acte bon, c'est qu'on désire le bonheur. Si on fait un acte mauvais, on désire le malheur. Donc voilà, on est dans plutôt la quête du désir.
Alors, ayons cette quête du désir. Merci beaucoup. On reste avec vous, donc, tourner avec peut-être ce désir grandissant qui se réveille au cours de ces échanges de jour en jour. Désirons en fait ce ciel. Rendez-vous demain et ça sera le dernier rendez-vous avec vous, Père Benjamin Boisson, prêtre à la communauté des Béatitudes. Et actuellement, vous êtes au service donc de ce centre spirituel de Marthe et Marie de Béthanie. À demain.